On continue la petite étude qu'on a commencée il y a quelques semaines sur la moisson des âmes. C'est la partie 3, la troisième partie. Dieu veut nous parler, puis il va y en avoir d'autres parties, d'autres messages qui vont faire suite dans les semaines à venir, si Dieu le veut, qui vont nous parler justement de la grande mission qu'on a à faire, frères et sœurs. C'est sûr que c'est le fun d'être sauvé. C'est sûr que c'est le fun d'être assis dans l'église pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir glorifier Dieu, pour pouvoir chanter des chants, pour pouvoir se fraterniser, manger ensemble, avoir du fun à l'intérieur de l'église. C'est la belle partie. Quand tu as une église qui vit dans l'amour, c'est facile. Mais il y a encore une autre partie de la vie chrétienne qui n'est pas accomplie dans cela quand on est assis dans l'église. Ça, c'est faire des disciples, c'est correct. Mais la grande commission, c'est aller. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, on va le voir dans le verset tantôt. Puis le message de l'Évangile, le message de salut en Jésus s'adresse à qui?
À nous autres.
Oui, il s'est adressé à nous autres, puis on l'a reçu. Mais dans toutes les autres, à qui ça s'adresse, ce message-là? C'est qui est destiné à entendre le message et le recevoir?
Chaque être humain.
Chaque être humain. Oui. Qui sont les gens qui seront sauvés?
Ceux qui vont dire oui.
Ceux qui vont répondre à l'appel, qui vont le recevoir. Dieu veut atteindre chaque individu qui nous entoure sans discrimination. On va voir dans ce message-là que ça s'adresse pas aux gens du dehors, ce message-là. Ça s'adresse aux chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit penser lorsqu'on s'en va évangéliser? Quand on rencontre différents types de personnes, parce que des personnes, c'est facile d'aller les voir puis de leur parler, puis on connecte tout de suite, ça va bien l'ouverture pour parler. Il y en a d'autres, juste aller regarder. Moi, non, je ne parle pas à ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'on a des idées préconçues, on a des préjugés, on a de la misère. Ceux comme notre sœur qui a travaillé dans une école, puis avait ses élèves, c'est sûr que tout l'ensemble des élèves qui étaient là, ça n'a pas toujours été du monde facile, ça n'a pas toujours été du monde que... Tu sais, qu'elle pouvait échanger, puis que tout avoir une bonne relation avec tout le monde. Des fois, il y a des rebelles, il y a des fois des personnes qui veulent rien savoir, qui sont impolies, indisciplinées, peut-être mal habillées, peut-être prennent pas soin de leurs hygiènes. Il y en a toutes les sortes là, de personnes qu'on peut rencontrer. Peut-être qu'il y avait des personnes très malades. Peut-être qu'il y en a qui c'est des, entre parenthèses, des guidounes, des prostituées, quelqu'un qu'on n'oserait même pas s'approcher. Mais Jésus, là, il veut atteindre tous ces gens-là. Puis il veut enlever nos barrières psychologiques. Notre sœur, qui était professeure, était assise dans la classe, puis elle n'avait pas le choix d'établir la règle, les règles de l'école, puis de jaser avec ce monde-là, puis de partager sa matière, était payé pour faire cela. C'était son travail. Ceux qui étaient là, puis qui fitaient dans le cadre, ils n'avaient pas le choix, ils passaient par le programme que l'école a donné, puis elle apprenait à fonctionner avec ceux qui étaient là, même si c'était pas des personnes qui étaient, tu sais, des personnes qu'on connecte facilement. Des fois, ça a dû être dur de parler à certaines personnes qui n'y participent pas, ils ne t'aident pas là, à pouvoir améliorer la relation. Je veux vous montrer, on l'a déjà regardé, ce passage-là, mais c'est un passage clé, c'est une vision que Dieu nous a donnée, c'est une vision du futur que Dieu nous a montré dans l'Apocalypse au chapitre 7, le verset de 9 à 11. Ça va nous faire voir qui fera partie des sauvés, de ceux qui vont vivre la vie sans fin, la vie éternelle. Dans Apocalypse 7, les versets de 9 à 11, ça nous dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. » Faut pas s'attendre qu'on va être tout seul l'autre bord. Faut pas s'attendre que juste notre église qui sont sauvés. Sinon, ça sera long. passer une éternité juste à une couple de personnes. Mais Dieu, il a déjà un plan, son programme. Il nous a montré une vision d'avenir. Puis il y a une grande foule qui se tient devant le trône, que personne ne pouvait compter. C'était tellement nombreux, la quantité de monde qu'il y a devant le trône, personne ne pouvait les compter, sauf Dieu, bien entendu. Puis dans ce foule-là, il y avait de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, puis ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau! » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et les quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu. Il y a un point en commun qu'on va retrouver pour tous ceux qui sont dans le ciel. Il y a des gens de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. De toute langue, ça veut dire peu importe, même si ça serait la langue qu'on comprend pas, il va en avoir de ces gens-là qui vont être là dans le ciel. Faut qu'il y en ait. Pourquoi? Pour accomplir cette prophétie. Il va en avoir de toutes les nations. Ben, il y a un point en commun. C'était pas tout du monde qui s'entendait sur la terre. Beaucoup des peuples qui sont là, dans le ciel, c'était du monde qui se faisait la guerre sur la terre. Le pays est en guerre avec un autre pays, puis là, ça s'entretuait, mais il y avait des sauvés dans les deux camps, des gens qui marchaient par la foi, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça nous dit que ces gens-là sont tous devant le trône revêtus de robes blanches. Puis il y avait du monde là-dedans, c'est-à-dire, comme je vous disais, qui étaient en guerre. Il y en a d'autres, c'était des chicanes de famille. Il y en a d'autres, c'était des chicanes de voisins dans une ville qui attaque une autre ville. Il y en a qui c'est les pays. Il y en a qui c'était du monde qui avait volé le pays de l'autre. Il y en avait là tous les genres. Donnez comme un exemple. Le peuple allemand qui ont fait la première et la deuxième guerre mondiale. Il y a des chrétiens dans les Allemands. On va voir des Allemands dans le ciel. Oui, même s'il y a des gens juifs qui ont souffert beaucoup, c'était le peuple de Dieu, puis ont été martyrisés, les familles entières d'être tuées, puis ont perdu leur propriété, leur bien, puis il n'y a pas juste eux autres qui ont souffert de ça. Notre sœur Anielka, elle, sa famille vient de ces pays-là, puis ils avaient perdu tout leur bien dans leur famille. Puis ils sont déménagés au Canada, puis ils vivent au Canada pour repartir leur vie, parce que là-bas, c'était la suite de la guerre, c'était la destruction, perdre tout ce que tu avais, puis tu n'étais pas en sécurité. Fait que dans le ciel, il va y avoir du monde de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations qui ont vécu sur la terre. Même si on ne s'accordait pas entre nous autres, on va se retrouver là parce qu'on a lavé notre robe dans le sang de l'agneau. Il n'y a pas personne d'autre qui va rentrer au ciel sans avoir lavé sa robe par le sang de l'agneau. C'est le point qu'on a en commun. On a tous passé par Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés. Puis pendant qu'on va être devant le trône, on va avoir aussi au moins un grand point en commun. À part qu'on a tous lavé notre robe sur la terre, c'est qu'on va être là pour être devant le trône, pour rendre la gloire à notre Dieu et à l'agneau. On va célébrer le Seigneur, on va chanter, il s'est dit. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robe blanche, et criait d'une voix forte. Toute la gang, même s'il saillissait sur la terre, ils ont passé par le sang de Jésus. Ils ont lavé leur robe, ils se retrouvent devant Dieu dans le ciel, avec tous les autres qui ont lavé leur robe, même si c'était des meurtriers, ils se retrouvent dans le ciel parce qu'ils ont lavé leur robe, puis ils vont être là. Le salut est à notre Dieu! Puis ils vont glorifier Dieu en criant, tous d'une même voix, d'une seule voix. Ça va être extraordinaire. Puis vous et moi, on va être là, nous autres aussi, en train de glorifier Dieu.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une vision du futur qu'on a reçue dans l'Apocalypse. Dieu voulait nous montrer qu'il y a une foule innombrable de gens sauvés. Mais ils sont là. Ça ne veut pas dire que pendant qu'ils étaient sur la terre, qu'ils s'aimaient tous. Avant d'accepter Jésus, peut-être après qu'ils ont appris à aimer, parce que je m'imagine, je me mets dans la peau d'une famille qui sur toute la famille s'est fait assassiner, faut qu'il y ait le pardon. Mais ça s'installe pas du jour au lendemain, le pardon. Il y a un cheminement de remettre la dette, puis de à ses meurtriers, puis etc. Il y a plein de chrétiens qui ont vécu ça, c'est de passer par là. Mais avant d'être chrétien, ils saillissaient. Ça, c'est sûr que le monde saillissait. Mais après, quand tu passes à Jésus, il te pardonne, puis là, ta nouvelle vie commence, puis là, Dieu restaure. Il répare les cœurs brisés, puis si le corps aussi a quelque chose, bien, le Seigneur va guérir, il va restaurer, puis il va utiliser les gens qui viennent à lui pour sa gloire. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, ce qui est le but du message aujourd'hui, Dieu veut nous amener à atteindre chaque individu qui nous entoure, sans discrimination. Le salut doit être annoncé à toute la création. Ça nous dit, Jésus a envoyé ses disciples prêcher à chaque créature, en parlant à chaque humain qui est sur la terre. Dans Matthieu 16, 15, c'est ce que ça nous dit, 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde, c'est par tout le monde. En commençant à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle, le salut en Jésus s'est répandu à travers toute la terre, allé par tout le monde. S'il était juif, puis il y avait des Romains, puis les Romains avaient tué sa famille, mais il a accepté Jésus, il a lavé sa robe, puis sa mission était aussi d'évangéliser les Romains. Amis, pas amis, on évangélise, c'est notre mission, sans distinction. Quand le mot qu'il y a là dans la Bible, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Louis Segond traduit ce mot-là ailleurs par créature aussi. Prêcher la bonne nouvelle à chaque créature. Quand tu parles de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, si je dis un arbre dans le cours chez nous, c'est la création de Dieu, ça donne rien de parler du Seigneur à un arbre. Quand il parlait à toutes les créations, c'était pas la création comme objet, il parlait de créature humaine qui est capable d'entendre le message. C'est pas un oiseau, c'est pas un chien, c'est pas un chat, parle aux humains. Notre mission est de parler à tout le monde sans distinction. Lorsqu'on parle du mot discrimination, là, de parler sans discrimination, ça veut dire sans distinction. On n'a pas à analyser les personnes pour voir si je dois y en parler ou pas y en parler. Sinon, si j'analyse, puis je dis à lui, j'y en parle pas. Puis là, on se donne des excuses, on se donne des raisons. On fait des distinctions entre les personnes. C'est de la discrimination. Dieu veut pas qu'on soit en train d'analyser, puis dire, ah, lui, j'y en parle pas. Sinon, il y aurait peut-être du monde qui serait pas au ciel de ces tribus-là. Le mot discrimination, je suis allé chercher une petite définition de la Commission canadienne des droits de la personne. Pour nous faire comprendre, le mot veut dire distinction. Mais la Commission des droits de la personne, ici au Canada, a fait une petite définition de discrimination. On ne doit pas faire de discrimination. Ça dit, la discrimination, c'est une action ou une décision que pourrait faire de traiter de manière négative une personne ou un groupe en raison, par exemple, de sa race, de son âge, de sa déficience ou handicap. Puis là, il donne des exemples. La race, l'origine nationale ou éthique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, s'il est marié ou pas marié, la situation de la famille, C'est un bon gars avec sa famille, c'est un mauvais gars, mais j'ai pas d'affaire à faire discrimination. La déficience ou un handicap, une condamnation qui a fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une suspension du casier judiciaire. Si quelqu'un passe en cour, j'ai pas d'affaire à faire de discrimination puis de faire des distinctions. Lui, il a passé en cour, je parle pas de Jésus. Ah, lui, il est gay. J'y parle pas de Jésus. C'est de la discrimination. Jésus a dit, va prêcher à toute créature. Parle de moi. T'arrives pas pour rencontrer des gens parfaits. Premièrement, il y en a pas de personnes parfaites. Puis tu vas, cherche pas des chrétiens. Il est déjà sauvé. Cherche des gens qui ont besoin du Christ dans leur vie. Fait que c'est pas à nous de juger sa condition pour savoir si je vais y en parler ou si j'y en parlerai pas. Il faut que je sois capable de parler à n'importe qui. Mettons un exemple, il est à côté depuis 25 ans, il est pas marié, je parlerai jamais de Jésus. Pourquoi je ferais ça, cette distinction-là? Ou c'est un pauvre? Pourquoi à cause qu'il est pauvre, j'y en parlerai pas? Il est mendiant sur un coin d'une rue, c'est un squeegee, il lave les vitres, puis il essaye de gagner sa vie avec ça, de se faire quelques piastres. Puis il est mal habillé, puis il pue, puis etc. Il se lave pas. Bon, je vais-tu faire une discrimination? Est-ce un être humain? Est-ce une personne perdue? Oui. Elle a-tu besoin de Jésus, cette personne-là? Oui. Jésus est-il capable de changer sa vie? Oui. Il est capable de la pardonner. Il est capable de la délivrer, cette personne-là. Il est capable de la restaurer, de la ramener... Puis des fois, c'est des mauvais esprits. Il fait le ménage dans son esprit, puis la ramener dans son bon sens. Dieu est capable de faire tout ça. Puis il est capable de la prendre, là, dans les pires scénarios, là, que ce qui serait, pour, à nos yeux, le plus répugnant possible comme personne. Chaque personne a des petits blocages psychologiques différents les uns des autres. Il y en a qui n'aiment pas de voir de grosses personnes. Il y en a d'autres, c'est le contraire. S'il est trop maigre, il est porté à mépriser. On a toutes des petites affaires là, qui font qu'on faut combattre contre ça. Puis là, tu vois une personne, mais vois plutôt c'est un âme que Dieu aime puis que Dieu veut sauver. Amen. Les chrétiens doivent se garder de faire des différences par l'apparence. Quand on regarde une personne, on se rapprête et est tossé. C'est vrai que la Bible nous dit de pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Tu vois une personne, c'est une méchante personne, puis elle se moque de tout le monde, puis elle compte des jokes sales. J'irai peut-être pas m'asseoir avec pour tous les dîners pendant mon break, puis écouter ses vidanges qu'elle me déverse dans mes oreilles. Ça, c'est sûr qu'on le fera pas. Mais ça veut pas dire qu'il y aura pas un moment qu'il faut que j'y parle pas de Jésus. Il faut que j'y parle de Jésus. Puis j'ai pas à attendre que cette personne-là devienne parfaite avant que je rouvre la bouche pour pouvoir y parler de Jésus, parce qu'elle a besoin de Jésus pour devenir changée, transformée. Dans Jacques, au chapitre 2, le verset 9, ça nous dit, si vous faites exception de personne, si on fait ça, là, qu'on est en train de faire des différences, des distinctions, puis on analyse, puis on tasse des personnes, si on fait des exceptions de personne, vous commettez un péché, que Jacques dit. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. C'est ce que ça nous dit. Un chrétien n'a pas le droit de faire de différence entre un riche ou un pauvre, par exemple. C'est dans ce contexte-là, vous irez lire ça, c'était justement un riche et un pauvre. Bon, on va l'étudier un peu plus en profondeur, mais qu'on rentre dans l'étude de Jacques à ce niveau-là. Il y a une parabole que Jésus a donnée à ses disciples pour leur montrer à ses disciples que Jésus veut tout le monde dans son ciel. Dans Luc 14, le verset 16 à 24. Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper. » Y a-t-il du monde ici qui sont invités à un grand souper?
Oui.
Oui, ça s'appelle les noces de l'agneau. C'est le grand souper qui s'en vient. On a hâte que ça arrive, qu'on puisse participer au mariage de Jésus. Alléluia. Il y avait un homme qui donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre, il dit, « Je viens de me marier. » C'est pour cela que je ne puis y aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître, parce que là, il n'y a personne qui venait au banquet de ceux qui avaient été invités. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement, vas-y rapidement, là, le souper est prêt, là. Faut que le monde rentre pour venir souper. C'est un banquet, c'est une fête. Faut que le monde soit là. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extrapiés, les aveugles, les boiteux. Il a envoyé ses serviteurs aller chercher les pauvres, les extrapiés, les aveugles, les boiteux. C'est tout du monde que les autres veulent pas voir. Lui, ce grand riche-là, il dit « Amène-les toutes, la gang ». Moi, ce que je trouve beau, c'est l'autre verset. Il dit, le serviteur lui dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. » Ils ont déjà reçu l'invitation. Les pauvres, les boiteux, les extrapiés, les aveugles, tout le monde avait le droit de rentrer dans son banquet. Ça a été fait, mais il y a encore de la place. Le maître veut remplir son ciel. Avez-vous déjà entendu le verset qui dit que Dieu use de patience envers nous afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à repentance? Dieu y retarde le retour dans le but d'en laisser un plus grand nombre rentrer. Il veut que sa salle de noces soit pleine. Puis là, les ceux qui avaient reçu l'invitation en premier, ils n'ont pas été. Fait que là, il veut remplir ça. Les malades, amenez-les tous. Les boiteux, les extraplés, les aveugles. Puis dans ce temps-là, ceux qui étaient en cette condition-là, c'était des mendiants. Ils n'étaient pas capables de travailler. C'était dur le travail dans ce temps-là. Fait qu'aller chercher les mendiants. Puis là, il nous dit, il y a encore de la place. Fait qu'il y en a plusieurs là, de ces malades-là qui sont rentrés dans le banquet. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Ça, c'est le désir de Dieu. « Va dans les rues puis dans les haies. » C'est qui qu'on retrouve dans les rues puis dans les haies? Les itinérants, les sans-abri. Va chercher tous ceux qui traînent dans les rues puis qui traînent sur le bord de la haie. Là. Ils n'ont pas de place. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Dieu dit, ça me dérange pas. Je veux toutes les voir ici dans mon banquet. Je veux que ma salle soit pleine d'invités. Il y a encore de la place. Allez chercher même les itinérants. Ça ne dérange pas Dieu. Il y a un cœur pour les itinérants. Puis là, ça nous dit, contrains-les d'entrer. Force-les, convainc-les, parle-leur jusqu'à temps qu'ils se décident de venir. Ils n'ont pas de place à aller pour manger, qu'ils viennent tous manger dans mon banquet. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il y a du monde qui ont refusé le message de Jésus-Christ. Le message était premièrement pour les Juifs, puis à cause qu'ils l'ont refusé, le salut est devenu accessible aux païens. C'est qui ces gens-là que toute personne veut voir? Des malades, des itinérants, des paralytiques, tu le vois dans les pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux, des gens qui traînent les rues. C'est qui ce genre de personnes-là, des gangs de rue? C'est tous ceux qui sont pas des justes. Tous ceux qui sont pas des personnes, dans le sens, pas qui sont pas justes, mais qui sont pas acceptés comme dans la classe, la belle classe de la société. La belle classe de la société, là, c'est les hommes d'affaires, ceux que ça roule leurs affaires, puis ils sont du monde bien habillé, bien... Ça, c'est la classe moyenne, puis ceux qui se pensent. Les autres, là, ils font pas partie de ce cadre-là, c'est ceux qui vivent dans la rue. Les marginaux. Jésus va aller chercher les marginaux. Puis si on regarde vraiment attentivement, là, chacun de nous, est-ce qu'on était des gens de la haute gomme, nous autres, avant de venir à Jésus? Premièrement, en étant des païens, on n'est pas des juifs, on est des païens, ceux qui sont pas de la racine juive. Les juifs étaient les choisis, le peuple de Dieu. Mais nous, on est ceux que les juifs auraient traités de chiens, les impurs. Puis, c'est nous autres qui a eu l'accès à rentrer. Puis le Seigneur nous a accueillis. Puis il y a encore de la place. Puis là, il nous dit, allez, puis forcez-les d'entrer, toutes les autres. Allez dans les rues, allez du long des haies. Où est-ce qu'on va aller évangéliser? Dans les rues, dans les parcs, les endroits publics. Quel genre de personnes qu'on va rencontrer? Des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Puis il dit, tous ceux que tu vas trouver là, force-les à rentrer. Je veux que ma maison soit pleine. C'est ça notre mission, puis c'est ça le cœur de Dieu. Dieu savait qu'il y en a qui refuseraient l'appel, puis Dieu savait aussi que ça donnerait l'occasion aux autres d'entrer, puis Dieu voulait toutes les voir rentrer. Dieu nous enseigne, comme j'ai dit, à ne pas faire d'exception de personne, à ne pas faire de différence. C'est pas à cause qu'une personne est pauvre ou qu'un autre est estropié ou aveugle ou boiteux, on est porté, humainement parlant, à fuir ceux qui sont dans ces conditions-là. Mais Dieu veut qu'on soit rempli, que notre cœur soit rempli d'amour pour ces gens-là, qu'on soit capable de leur parler sans distinction. Ils méritent d'être sauvés autant que nous, on le méritait. En réalité, on le méritait pas. Ça nous a été donné comme cadeau d'être sauvés, mais eux autres aussi peuvent recevoir le cadeau. Souvent, nos préjugés nous empêchent de parler de Dieu aux gens qui nous entourent. Parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Il faut demander à Dieu de changer nos cœurs. Parce que, comme j'ai dit tantôt dans Jacques 2,9, ça dit, « Si vous faites des exceptions de personnes, vous commettez un péché. » C'est ce qui est écrit. Fait que quand on parle des pauvres, dans ce passage-là, il parlait des pauvres, est-ce qu'on est porté à faire une distinction parce que la personne est pauvre? Qu'est-ce qu'on va remarquer en premier sur un pauvre? Mal habillé. Quelles sont les autres caractéristiques qu'on voit souvent sur les pauvres? Le soin d'hygiène. Quelle autre caractéristique? Elle est toujours en train de demander. Elle est pauvre, elle n'a pas rien. Fait que là, tu sens que tu es quasiment obligé de toujours, je te mettre ta main dans ta poche pour y donner. Mais c'est normal, elle n'a rien, puis tu es dans l'abondance. Dieu a fait ça dans ce but-là, pour que ton surplus puisse aider celle qui n'en a pas. Puis là, on trouve ça dérangeant. Fait que quand on voit encore le pauvre, j'ai pas le temps, là, faut que je m'en aille. On veut pas lui parler. On veut pas rester plus que 10 minutes avec. Parce que là, on a peur de se faire inquiéter. Mais il y a plein d'affaires qui nous dérangent, que là, on est prêt à faire des distinctions parce qu'on manque d'amour. Puis on manque un peu de générosité de notre personne, de notre temps, de notre ce qu'on a comme ressources qui pourraient l'aider. Ça se peut-tu? En parlant des pauvres, comme je disais tantôt, les pauvres, souvent, c'est des itinérants. Itinérant, ça veut dire sans-abri, c'est des mendiants, ils quittent, ils sont mal habillés, ils sont mal propres. Ils sont pas tous comme ça, là. Il y en a des pauvres qui sont capables de se soigner. Mais là, je fais une caricature comme pour voir ce qui pourrait nous tiendre un peu loin de certaines personnes. Mais dans Jacques, au chapitre 2, le verset de 1 à 4, ça nous dit... Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Ça veut dire que quand tu as la foi en Jésus, faut pas que tu aies dans ta vie l'idée de faire des exceptions de personnes. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, puis qu'il rentre aussi un pauvre misérablement vêtu, mal habillé, avec toutes les autres caractéristiques. Les deux personnes rentrent, un bien habillé, la grosse bague en or, puis il parle de ses affaires, puis il met les affaires, puis l'argent rentre, puis son gros char de l'année devant parquet devant porte, puis le boat ici, puis le skidoo là, puis le chalet, puis les voyages dans le sud, puis là, il fait la grosse vie, il rentre. Ça arrive des fois, je te dis pas que c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Les autres, le pasteur, il faut pas qu'il voie ça comme avec des signes de pièces. Ouh, l'offrande va être bonne cette année, cette semaine. Ou si elle devient membre, que là, l'offrande va être bonne. Fait que là, tout de suite, il part, puis il s'en va accueillir le riche. Venez, puis prenez ce siège-là, c'est le plus confortable qu'on a ici dans l'Église. Là, ça dit, si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Quelle est la plus belle place qu'on a là? On pourra même lui dire de venir s'asseoir sur le stage. Un coup parti. Tu dis aux riches de venir s'asseoir là, puis là, tu dis aux pauvres, tiens-toi là debout, là, il n'y a pas de place. Tu pourras même salir ma chaise si tu t'assis sur ma chaise, là. Reste debout dans le coin, puis dérange pas, là. Colle-toi pas ces autres, parce que tu penses, il sent pas bon, il pourrait déranger du monde, que le monde s'en aille. Ou bien, assis-toi ici, à mon marchepied, là. Tu dérangeras pas. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas par l'inspiration de mauvaises pensées? Est-ce qu'aux yeux de Dieu, ça dérange Dieu? Est-ce que Dieu voit une différence entre quelqu'un qui a une belle habit ou quelqu'un qui est pauvre, misérablement vêtu?
Non.
Dieu voit une âme à sauver. Mais qu'on étudie en profondeur, on va voir, c'est avec les riches qu'on a des problèmes le plus souvent, pas avec les pauvres. Sur les trains devant les tribunaux, puis les avocats ici, puis les lettres d'avocats, puis tous les problèmes, la majorité du temps, c'était plus avec les riches qu'avec les pauvres. Les pauvres sont généreux d'habitude, ils partagent ce qu'ils ont, puis ils ont rien, puis ils se débrouillent pour survivre, puis ils sont capables d'aider les autres pauvres. C'est dans ce verset-là aussi que si on fait une distinction, on fait un péché. Fait que Dieu, là, il veut nous enlever nos lunettes de distinction. Il veut pas qu'on en fasse de distinction entre un riche ou un pauvre. Quelqu'un de bien habillé, puis quelqu'un qui est misérablement habillé, puis qu'il y a toutes les ce qui va avec. Un autre place que Jésus a enseigné ses disciples, il est obligé d'enseigner ses disciples à pas faire de distinction de personne. Au niveau de juger les gens par leur âge. Les enfants aussi sont invités par Jésus. Dans Matthieu 19, les versets 13 et 14, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Voyez là-bas, les jeunes morveux. Ils ont été repoussés. Ça dérange les enfants. Les enfants, là, ça fait du bruit. Ça défait notre... Ça crée un désordre. Ça défait notre quiétude. Notre réunion est un petit peu dérangée quand t'entends jouer, tiroyage, courage. Là, il y a des gens qui amènent leur enfant pour qu'il soit béni par Jésus. Jésus, il était là, puis il est prêt, puis les disciples, wow, n'aie pas dérangé Jésus. Jésus dit, verset 14, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus veut pas qu'on fasse de discrimination, de distinction ou de rejet des enfants parce que ça dérange. Faut les accueillir, puis s'ils veulent aller à Jésus, faut les expliquer. Une autre place qu'il y a eu des jugements face à d'autres genres de personnes, c'est quand on se met à juger les gens par leur travail ou leurs conditions sociales, comme en exemple les publicains, les gens de mauvaise vie. Mais il avait été invité par Jésus. Dans Luc 15, les versets de 1 à 7. Les publicains, en passant, pour ceux qui ne savent pas, c'est des percepteurs d'impôts. Les Juifs étaient sous la tutelle romaine. Là, les Romains ont pris de certains Juifs pour les établir comme percepteurs d'impôts sur les autres. Fait que c'était des Juifs, mais qui travaillaient pour les Romains, puis allaient cogner des maisons. Vous avez gagné combien cette année, c'est de la valeur. Vous nous devez tant. L'autre, j'ai pas d'argent. Il pognait ce qu'il y avait pour payer. Okay? On paye le César. Il travaillait pour l'ennemi. Puis il prenait les biens des Juifs. Puis c'était des Juifs choisis par des Romains, mais il prenait les biens des Juifs pour payer les impôts au gouvernement. Pensez-vous qu'il était aimé par les Juifs? L'ensemble du peuple haïssait les publicains. C'était les percepteurs d'impôts. Ils étaient haïs. Au point même que quand c'était le temps de parler de Dieu, il y en a qui ne voulaient pas lui parler de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un job qu'on aime. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, payer ses impôts. Surtout si tu n'as pas l'argent pour les payer. C'est au Luc 15, le verset de 1 à 7, ça nous parle, tous les publicains, fait que tous les percepteurs d'impôts, ils étaient là à quelque part, et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Fait que là, il y a du monde qui s'approche de Jésus, mais il y a les pharisiens étaient là, il y avait les disciples, puis là, il y a la gang, tous les percepteurs d'impôts qui avaient sûrement... comme pas un syndicat, mais ils étaient réunis ensemble, ils se connaissaient, puis ils s'approchent toute la gang pour aller voir Jésus, c'était tous des Juifs, haïs de la majorité des Juifs, et il y avait aussi un autre groupe, c'était des gens de mauvaise vie, de ceux qui vont pas à synagogue à toutes les semaines, puis qui offrent pas le sacrifice, puis qui vivent dans, peut-être c'est des alcooliques, peut-être c'est... Tous les péchés qu'on peut s'imaginer, il y avait du monde comme ça au temps de Jésus aussi. Des gens de mauvaise vie. Fait que tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Ça l'intéressait à ces gens-là. C'est correct. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » C'est un scandale. Jésus mange avec des publicains. Jésus mangeait avec les percepteurs d'impôts. Jésus mangeait même avec des gens de mauvaise vie. Jésus parlait du royaume de Dieu même aux gens de mauvaise vie. Là, ça faisait murmurer les pharisiens, les scribes. Là, Jésus leur a dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, si le 100 brebis puis qu'en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Puis lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue! » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le ciel se réjouit quand une personne de mauvaise vie revient à Dieu, qu'elle se repent, qu'elle change de vie, qu'elle veut recommencer à zéro. Jésus est venu exprès pour ça, pour permettre aux gens de recommencer à zéro, qu'ils puissent naître de nouveau, être pardonnés de leurs péchés, recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle, recevoir le Saint-Esprit, puis de recommencer à neuf avec la parole de Dieu pour pouvoir changer de vie. Jésus est venu dans ce but-là. Puis là, les scribes, les pharisiens, hey, ils murmuraient, puis ils critiquaient, puis ils chiolaient. Ils mangent avec des gens de mauvaise vie, puis ils mangent avec les publicains, c'est du monde haï. Jésus faisait pas de discrimination. Il faisait pas de distinction entre les personnes. Tous étaient bienvenus. Puis même, il a réenchéri son idée en disant, qui sait d'entre vous, s'il perd une brebis, il laisse pas les 99 pour aller chercher à celle qui est perdue. Puis il dit, quand tu l'as retrouvé, ce brebis-là, cause plus de joie, cette brebis-là, que les 99 que tu n'avais pas perdu. Jésus est heureux lorsque une personne se convertit. Une personne de mauvaise vie qui se tourne vers lui pour demander pardon. Dieu, il est heureux, il a des parties dans le ciel, ils sont heureux, ils sont bénis, ils sont contents. Un homme a accepté le salut offert en Jésus-Christ. Elle lave sa robe, elle va faire partie de ceux qui vont vivre la vie éternelle avec Dieu. Il faut enlever, frères et sœurs, nos lunettes de distinction, nos lunettes de jugement des personnes par l'apparence ou par la condition sociale. Il y a une job. As-tu vu un job qu'il fait, ce gars-là? Il collecte les impôts, il t'a haï, mais il y a d'autres jobs qu'on peut haïr aujourd'hui. Un policier se fait-tu haïr, vous pensez? Surtout quand ils viennent de t'arrêter puis de te flanquer un ticket de 150$ avec 3 points de démérite. Tu l'as, ben on, nous, les chrétiens, nous ne l'haïssons pas, nous lui disons merci quand on reçoit une étiquette. Amen. Gloire à Dieu. On remercie le policier. C'est la manière biblique de répondre à nos amis. C'est pas un ennemi, il a juste fait sa job. C'est sa job. Faut pas juger une personne à cause de sa job. Parce que la journée qu'on va se faire voler, ou qu'on va se faire menacer par un bandit qui vient prendre en otage, puis que la police intervient, puis elle arrête le bandit, puis elle te la vie sauve, tu vas-tu la remercier à la police? Tu vas être content qu'il y en ait une police?
Moi, j'ai... Tu donnes une carte parce que t'as fait l'infraction.
Oui, t'as mérité l'infraction. Moi, ça a été plus facile pour moi d'accepter les policiers. Mon père était policier, fait que là... Mais... Je le sais que là, je suis bien placé pour vous l'expliquer qu'il faut apprendre à aimer les policiers, ceux du monde comme tout le monde. Ils font juste leur job. Ils sont payés pour faire cela. Un autre passage que Jésus il a éliminé une autre discrimination, c'est que les prostituées sont aussi invitées par Jésus. Dans Luc 7, le verset 36 à 45, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien puis se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle ne s'assisait pas avec tout le monde assis à la table pour manger. Elle était assise en arrière. Mais elle avait le parfum dans les mains pour mettre sur Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Elle les baissa. Elle donnait des becs aux pieds à Jésus. Elle les oignit de parfum. Elle aimait Jésus. C'était une femme pécheresse. Personne ne voulait y adresser la parole. Personne même voulait la voir. Le pharisien qui l'avait invité, lui, il ne prenait pas de la bonne façon. Voyant cela, il dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Voyez-vous l'attitude, comment est-ce que le jugement, la condamnation de la personne, c'est une femme adultère, là. C'est une prostituée, là. Elle couche avec les gars, tu vois, puis elle est peut-être habillées d'une manière provocante. Ça ne nous le dit pas, mais nous, les prostituées, on a une image de comment ce qu'ils sont. Puis lui, le pharisien, je suis sûr qu'il ne voulait même pas la voir dans sa maison. Mais elle rentrait quand même, puis elle s'est assise à côté de Jésus, puis elle pleurait ses pieds à Jésus, puis elle essuyait ses larmes avec ses cheveux, puis elle a versé du parfum à ses pieds de Jésus. Puis là, l'autre, il regarde ça, puis il dit, si vraiment c'est un prophète, ce gars-là, il s'arrête de quelle espèce que c'est cette femme-là? Jésus prit la parole, puis il lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Puis Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Puis là, il nous donne un passage. Dans l'autre passage, il dit, c'est parce qu'elle a beaucoup été pardonnée, c'est pour ça qu'elle a beaucoup aimé. Voyez-vous, une personne qui se fait pardonner beaucoup va aimer Jésus au bout. On serait prête à repousser les prostituées ou les gens de mauvaise vie ou les publicains ou les pauvres. On ne veut pas qu'ils s'approchent de Jésus ou même les enfants. Jésus dit non, oubliez ça, ces mauvaises pensées-là. C'est tout du monde qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Il ne faut pas avoir de distinction. On serait dans le péché. Dieu veut qu'on aille vers tout le monde, prêcher à toute la création, sans d'arrière-pensée négative. Le message de l'Évangile, c'est une puissance pour sauver tout le monde. Romains 1, 16, Paul il dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il n'a pas juste dit pour la classe, la haute gamme. Non, c'est à tout le monde, quiconque croit. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prostituée, pauvre, gens de mauvaise vie, publicain, enfant, quiconque croit peut saisir le cadeau du message de l'Évangile. C'est une puissance pour te sauver. Il te sauve de quoi? Mais il te sauve de ta misère où est-ce que tu es rendu, puis il te sort de ta misère. Il te donne le pardon, puis le lavage. Puis il te remplit de son esprit, puis il guérit ton âme. Tes pensées, ils changent. Ta vie change. Le démoniaque qui a rencontré Jésus, il avait une légion de démons, il vivait dans un cimetière. Personne n'aurait osé aller y porter l'Évangile à ce gars-là. Jésus a passé, puis le gars a couru direct à Jésus. Puis là, Jésus l'a délivré de ses démons, puis l'homme était dans son bon sens. Puis là, il voulait rester avec Jésus, puis Jésus dit non, va raconter à ta famille tout ce que le Seigneur t'a fait. Puis il est parti, puis il est allé évangéliser tout le monde qui connaissait. Un gars que personne ne voulait rencontrer, Jésus est allé le chercher, puis il l'a délivré, il l'a transformé, puis il l'a envoyé par prêcher l'Évangile. Gloire à Dieu! Si on se regarde attentivement, on était-tu des parfaits avant de venir à Jésus? On était pas mieux que ce gars-là. On avait tous des mauvais esprits après nous autres. Peut-être pas en même quantité. On était tous souillés par nos péchés. On était tous sales devant Dieu. Tous des condamnés à l'étang ardent de feu et de soufre. La colère de Dieu était sur nous. Puis quand on est venu à Jésus-Christ, il nous a pardonné pas à cause qu'on le méritait, pas en tout, mais on le mérite pas plus 35 ans plus tard. C'est encore un cadeau qu'il nous donne. Puis sa patience, qui est patient envers nous, malgré qu'on résiste souvent, qu'on est rebelle encore à sa parole, il nous aime encore, puis il nous entoure, puis il nous parle, puis il veut nous changer, puis il veut nous amener à être comme Jésus. Peu importe votre condition, Jésus vous appelle et il veut changer votre vie. Dans le psaume 40, les versets de 1 à 3, c'est le dernier passage. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, puis il s'est incliné vers moi. Quand tu commences à croire que Dieu est là puis que Dieu veut t'aider, là, tu commences à croire, là, tu vas crier à Dieu, puis là, ça dit, Dieu va s'incliner vers toi. Il va se pencher sur ton cas. Il va commencer à vouloir agir dans ta vie. Il te laisse aller. Tant que tu cries pas à Dieu, il te laisse aller, il force pas personne. Mais quand une personne commence à invoquer Dieu, le Dieu, son oreille, il s'incline pour écouter, puis la regarder, puis vouloir la secourir. Il a écouté mes cris, que ça dit dans le verset. Ils m'ont retiré de la fosse de la destruction. Quelles étaient nos fosses? Quelles sont la fosse d'une prostituée? Quelle est la fosse des pauvres? La fosse des mendiants ou la fosse? Quelles sont les fosses des gens de mauvaise vie? La fosse, c'est le trou dans lequel on est tombé. Quel est le trou dans lequel on était tous détombés? Jésus est venu puis nous a retirés de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il nous a sortis du fond du trou, puis il nous a... Parce qu'on a crié à lui. Il a dressé mes pieds sur le roc, il nous a déposés sur le roc, qui est Jésus et sa parole. Puis il a affermi mes pas. Ça parle du changement de vie qu'une personne a quand elle vient à Jésus, elle crie au Seigneur, le Seigneur le sort de son trou, puis l'établit sur du roc, puis là, il t'affermit dans ta marche, dans tes pas, dans la manière que tu vas vivre sur cette terre. Tu étais peut-être un tout croche, mais on était tous des tout croches, puis il nous a mis sur le roc, puis il est en train de nous affermir. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. On n'avait pas avant, puis là on en a. Puis beaucoup l'ont vu, puis ont eu de la crainte, puis se sont confiés en l'Éternel. C'est le témoignage après ça. Quand le monde voit comment Dieu a changé ta vie, c'est un témoignage, puis ça donne la crainte de Dieu autour de nous. Les gens nous regardent, puis ils nous disent, c'est un gars-là, je le connaissais, comment est-ce qu'il était avant, puis là aujourd'hui, avec le Seigneur dans sa vie est changée, sa vie est transformée. Puis c'est Dieu qui l'a fait. Fait qu'il est capable de le faire envers tous ceux qui sont dans des mauvaises vies présentement. On n'a pas à faire de distinction de personne. Pensez aux plus pires personnes que vous avez dans votre tête, là, que vous n'êtes pas capable de sentir, que vous n'êtes pas capable de regarder ou que vous n'êtes pas intéressé d'aller leur parler. Vous en avez une, là? Mais Jésus veut que vous alliez y parler à cette personne-là puis vous parler de Jésus. Il veut que vous allez lui dire comment est-ce que Dieu l'aime, puis que Dieu veut la sauver, puis que Dieu est le seul moyen pour lequel il peut être sauvé pour avoir la vie éternelle. Êtes-vous prête à le faire? Ça fait partie de notre mission, frères et sœurs. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous renverse nos faux raisonnements, puis nos blocages, puis tout ce qui nous tient aveugles ou ce qui nous fait marcher d'une manière boiteuse. Seigneur, viens changer nos cœurs, notre perception, puis qu'on puisse être des gens prêts et disposés à parler à quiconque qui sont devant nous, peu importe leur condition sociale, peu importe leur travail, même si ça serait mon patron. Il a besoin de Jésus. Même si ce serait la pire personne de mauvaise vie que je connais ou une prostituée, peu importe. T'es venu pour sauver ceux qui sont perdus. Seigneur, donne-nous de l'amour dans nos cœurs pour ces gens-là, puis qu'on soit capable de parler de Jésus puis leur présenter le seul moyen qu'ils ont pour pouvoir être pardonnés. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.